Courant d'air
au-delà des frontières.
Courant d'air, des interviews de globe-trotteurs et des témoignages de voyageurs étrangers qui habitent en Bretagne à 13h tous les mardis. Bonjour à tous, c'est Nora, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission qui vous fait voyager. Cette semaine dans Courant d'air, on écoute Lisa qui nous raconte son voyage humanitaire au Bénin et Johanna, lituanienne à Rennes. Je suis en compagnie de Lisa qui est partie au Bénin pendant 12 jours. Alors c'était dans un contexte un peu particulier parce que tu es partie avec une asso humanitaire en fait, en tant qu'infirmière, aide-soignante, enfin voilà, pour aller dans les villages, pour soigner les gens. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, le Bénin c'est en Afrique de l'Ouest, alors il partage ses frontières avec le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. C'était une drôle d'expérience pour toi, t'es partie en août.
Quand on est arrivé donc à Cotonou, donc c'est la capitale du Bénin. Et donc ensuite on est allé à Ouida, donc c'est là où on était logé du coup pendant les 12 jours, donc dans une maison prévue pour les bénévoles. Donc, on a été dans le bain directement dans le sens où déjà pour y aller, donc on avait une trentaine de kilomètres à faire qu'on a dû mettre 2 heures dans les routes un peu sinueuses et tout ça avec plein de bosses. Et après en fait avant de commencer les journées du coup médicales à aller dans les villages vraiment pour aller soigner les gens ou alors on faisait aussi des journées où on allait dans une école aussi faire de l'éducation aux enfants. Avant de faire ça on a fait une première journée pour visiter un peu Ouida.
Yeba. Oh sali moziki ya fiesta ngo tozala ngona koma sérieux tumba mama toyebana kinga na yo na Lubumbashi kino lelo yo tozali kaka na yo.
Vous avez quand même eu l'occasion de pas mal échanger avec les gens et vous parliez français entre vous, c'est pas ça?
Bah du coup au Bénin, vu que c'est une ancienne colonie française, oui ils parlent français mais surtout dans les villes. À Cotonou là il y avait beaucoup de gens qui parlaient français mais comme je vous l'ai dit on était à Ouida donc on n'a pas eu justement affaire à ces personnes-là. À Ouida même il y avait des gens qui parlaient français aussi, surtout ceux qui vendent les choses, enfin les marchands etc. Mais nous vu qu'on allait dans la campagne profonde vraiment... dans les villages, enfin, il nous arrivait d'aller dans un village en pirogue, parce qu'il était accessible qu'en pirogue, par exemple. Et bah, au fond de ces villages-là, ils ne parlaient pas français, en fait, ils parlaient le fon. Donc là, effectivement, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Donc le langage se faisait par des interprètes ou même le langage non-verbal, en fait, et au final, ça fonctionnait très bien.
T'es parti avec l'association qui s'appelle Association Mission Humanitaire. Selon toi, en tout cas, c'est très très bien organisé. Tu t'es senti en sécurité. Vous avez été tous ensemble logés dans une maison.
Ouais, on s'est vraiment très très bien entendu. Donc on était 14 bénévoles. Et donc on a, en gros, pour les âges, on allait de 18 à une quarantaine d'années. Et en fait, ouais, il y a une très bonne entente. C'est vrai qu'on était tout le temps tous ensemble. Du fait, déjà, les chambres, bah, on était plusieurs par chambre. On mangeait tout le temps tous ensemble et tout ça.
Plus concrètement, est-ce que vous avez fait pour les autres jours, donc à part la première journée où vous avez fait des visites, tous les autres jours, après, vous êtes allé dans les villages pour soigner les gens. Concrètement, ça s'est passé comment ?
Du coup, en fait, on arrivait, donc on était neuf bénévoles donc, qui venaient pour les journées médicales pendant que les 5 autres allaient dans l'école pour l'éducation. Et donc, en fait, les 9, on était répartis en plusieurs postes. Donc, il y avait un poste où on était, en gros, à l'accueil. Donc, on accueillait les patients donc, qui étaient tous à la file d'attente. Des fois, il y en avait plein, donc ça pouvait être assez impressionnant. Du coup, on accueillait les patients, on prenait les tensions. Donc ça, en fait, on n'était pas forcément dans les bénévoles, j'ai oublié de le dire. On n'était pas tous du milieu médical, parce que c'est vrai que moi, je suis étudiante infirmière. Mais il y a certaines qui étaient secrétaires, profs, enfin, il y avait de tout, en fait. Et du coup, à l'accueil, donc on prenait les tensions. Donc on a tous appris comment prendre des tensions. Moi, je le savais déjà, mais bon, voilà. On pesait les petits bébés, on disait aux mamans d'aller sur les balances, etc. Il y avait un autre poste où les patients allaient voir le médecin. Donc au médecin, c'est pareil, il y avait un assistant, donc un des bénévoles français, qui notait en fait ce que le médecin nous disait. Donc on notait la prescription sur les médicaments à prendre. Ensuite, il y avait un autre poste pharmacie, où là on préparait les médicaments pour que les patients viennent les chercher et on leur donnait. Et il y avait un poste à part un petit peu, c'était l'infirmerie. Donc là, il y avait deux personnes qui s'occupaient de l'infirmerie, qui n'étaient pas forcément du milieu médical non plus. Donc on a appris aussi, nous, justement, vu qu'on était quatre du milieu médical, on leur a appris un peu comment faire les pansements. Et du coup, elles faisaient, en fait. Et puis après, voilà, les patients repartaient. C'était un circuit, en fait.
Pas forcément toi, mais du coup, plus tes collègues qui n'étaient pas habitués au milieu médical. En fait, ça veut dire qu'il y avait une bonne partie des gens aussi qui étaient là qui ne pouvaient pas vraiment être en mesure de soigner grand monde, en fait, c'est ça ?
Ouais, du coup, c'est vrai que c'était une mission, mais on le savait avant d'aller au Bénin, parce que du coup, l'association a plusieurs lieux, en fait, enfin, plusieurs pays. Et on savait très bien que dans cette mission-là, il n'y avait pas vraiment truc trash en fait. Enfin, on savait qu'il n'allait pas avoir de grosses blessures. C'était beaucoup les patients qui étaient là pour des syndromes, des crises de paludisme, des choses comme ça. Donc il y avait aussi plein de petits bobos, parce que c'est vrai que les enfants sont des petites plaies, et puis vu que c'est qu'ils sont pas très très bien habillés, tout ça, qu'ils n'ont pas les moyens, ils roulent dans le sable, enfin ils jouent dans le sable et tout ça, ça empire la plaie, ça fait des creux et tout ça, donc voilà, c'est des petites choses, mais je pense que en fait les gens venaient aussi pour être rassurés, et voir des médecins, pour eux c'était extrêmement important. Donc c'était des médecins béninois, hein, de là-bas qui venaient avec nous, mais je pense que voilà, c'était beaucoup pour les rassurer aussi, et de les voir contents aussi, eux, de venir voir les médecins, ça faisait plaisir, quoi.
C'est un peu une goutte d'eau dans l'océan, en fait, j'ai envie de dire, de faire des pansements.
Complètement, c'est, je pense, un des inconvénients que je vois dans la mission, c'est le fait que effectivement on n'ait pas de nouvelles des personnes qu'on a soignées dans les villages ou qu'on a vues, parce que oui, les enfants probablement qu'ils ne verront pas de médecin avant plusieurs mois après notre passage. Du coup, on se dit que le pansement qu'on a fait le jour même, probablement que le lendemain il ne sera plus là, donc la plaie se refera de plus belle.
Donc finalement, il n'y a pas vraiment de long terme, quoi, malheureusement. C'est des petits outils pour colmater des petites brèches, mais dans le fond, c'est pas forcément une certaine mise en place de certaines choses qui vont pouvoir rester après et qui vont pouvoir être leur servir vraiment à long terme, quoi.
Non, surtout que, par exemple, on leur donnait des ordonnances justement avec les médicaments. Et donc les médecins disaient aux patients d'aller dans la pharmacie, mais qui parfois étaient à 2 heures de marche. Donc voilà, là on se doutait que les personnes n'allaient pas y aller. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, le suivi, on se dit, bon, on prescrit des médicaments qu'ils vont probablement jamais avoir. Donc c'est un peu frustrant à ce niveau-là.
Pour en revenir à des choses un petit peu plus gaies, les Béninois ont une manière d'envisager la mort qui est peut-être assez surprenante, mais qui m'a l'air bien sympa quand même.
Oui, c'est vrai que pour les personnes qui sont plutôt âgées, enfin pour eux âgés, l'espérance de vie n'est pas la même qu'ici. C'est pas triste en fait, c'est plutôt gai. Par exemple, une fois j'étais justement dans la maison des bénévoles, donc dans ma chambre, et il y a un petit balcon. Et puis là j'ai commencé à entendre du bruit, de la musique, plein de gens, donc je savais pas ce qui se passait. Et je sors donc regarder à travers le balcon. Donc on avait en fait une route en dessous qui passait, enfin une route, un chemin. Et du coup là il y avait plein de gens en fait, donc habillés toujours en couleurs, hein, au Bénin c'est ça, beaucoup de couleurs. Mais... Et du coup ils étaient tous en train de danser avec la musique. Et puis là, je vois un cercueil qui se baladait au-dessus des mains, de main en main. Donc je me suis dit, bon, d'accord, en fait, c'est un enterrement. Et en fait, ils ont fait la fête pendant 2 jours. Donc je me suis dit, waouh, ça change de chez nous. Et ce qui faisait plaisir à voir, finalement, on avait le sourire en se disant bah non, il y a quelqu'un dans le cercueil, mais on avait le sourire quand même, et eux l'avaient tous aussi, donc ça faisait très très étrange, mais ça faisait plaisir au final.
Ouais, c'est sans doute assez culturel finalement, parce que chez nous, c'est vrai qu'on est, habitué à ce que les anciens meurent, mais c'est vrai que peut-être que pour eux aussi, c'est assez, comme l'espérance de vie n'est pas la même, le confort de vie, tout ça, je sais même pas si on peut parler de confort de vie dans beaucoup de cas, du coup, ils sont peut-être plus habitués à voir les gens mourir, alors sans doute que si ils meurent vieux, ça veut dire qu'ils ont eu une bonne vie. Je sais pas, il y a peut-être de ça aussi. Comment est-ce que tu as fait concrètement pour pouvoir partir, toi ? Si jamais demain, moi j'ai envie de partir en voyage humanitaire, en rencontrer des gens, essayer de voir ce que je peux faire, je passe par quel biais ? Concrètement, j'appelle qui ?
Concrètement, moi j'ai regardé sur internet, c'était un très bel outil pour ça. Enfin voilà, j'ai juste contacté après l'association par mail, et ensuite du coup on a eu en fait un week-end, un séminaire là-bas. Pour justement nous présenter les différents pays, ce qu'ils faisaient là-bas, les missions et tout ça. Et puis après ce week-end-là, on était acceptés ou non, parce qu'on pouvait être très bien refusé aussi pour partir en mission, parce que notre profil n'aurait pas correspondu. Et à la suite de ça, du coup, on s'inscrivait dans la mission où on voulait, et puis après, ça roule, quoi. On a toutes les démarches à faire, bien sûr, c'est payant.
D'accord, donc ça commence par un mail, et puis ça se finit au Bénin, à Cotonou, quoi. Ok.
En tout cas, moi, ça a été l'expérience la plus enrichissante, je pense, de ma vie, que je m'en souviendrai très longtemps, et je repartirai volontiers. Après, en conseil, peut-être n'ayez pas peur de ne pas être justement du milieu médical pour partir dans une mission où il y a des journées médicales, parce que... Voilà, celles qui étaient avec moi ou ceux qui étaient avec moi qui n'avaient rien à voir ont apprécié la mission autant que moi, je pense, et c'était tellement bien organisé qu'au final, ça roule très bien, quoi.
C'était le témoignage de Lisa. Après une petite pause musicale, on retrouve Johanna qui est lituanienne et habite à Rennes. Écoutons d'abord un artiste très connu en Afrique, c'est Dr Nico dans Tokei Koyekola avec l'African Fiesta Sukisa. A tout à l'heure.
Rompe a Congo, no fani ma mi corona Congo, pe mi dule mi coteli bino, tango e coqui, foto que ne namo kiri mosusu. Pour la paix de la
tikeli bino bisengo ya mboka tokeko yekola metode ya kobola mpe tokozola.
Le 11 mars 2015, on fêtait les 25 ans de l'indépendance de la Lituanie par rapport à l'Union soviétique. Bon, en fait, c'est la seconde indépendance parce qu'en 1918, la Lituanie a signé sa déclaration d'indépendance à l'époque sous occupation allemande. Le pays a surtout subi cependant la présence russe. Auditeurs et auditrices de Courant d'air, ici Enora, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission qui vous fait voyager. Après avoir écouté l'expérience de Lisa au Bénin, on reçoit Johanna qui est lituanienne. Tu habites à Rennes, Johanna, et tu étudies en anglais, langue étrangère. Tu donnes aussi des cours d'anglais et de piano. Comment ça se passe ici à Rennes ?
Quand je suis arrivée ici, je me sentais au début un petit peu perdue. La première fois, je suis arrivée en 2011 par le programme Erasmus. Et donc, j'ai passé 6 mois à peu près en France. C'était en période très, très géniale. J'ai passé beaucoup de temps avec les autres étudiants, Erasmus, avec, dans l'ambiance très internationale, avec des Espagnols, Portugais, de tous les pays du monde. Et je trouvais ça très bien. Après, j'avais aussi la bourse Erasmus, donc je n'ai pas dû travailler. J'ai pensé plutôt à mes études. Et deuxième fois que je suis arrivée en France, c'était une autre situation. Je suis arrivée indépendamment, donc j'ai dû trouver du travail, en même temps étudier. Et donc là, c'était un petit peu plus compliqué, première année, pour s'installer. Il fallait aussi toute la documentation, administration, qui est parfois un peu compliquée. Et donc, c'était plus difficile. Maintenant, c'est la troisième année que j'habite à Rennes et je me plais assez bien. Ça me plaît vivre ici.
Il n'y a pas longtemps, tu as assisté à un fest-noz à Rennes.
Oui, en fait, ça ressemblait un petit peu aux danses folkloriques lituaniennes. Et en Lituanie, je suis très souvent allée danser ces danses folkloriques. Ça me rappelle bien aussi les danses bretonnes. Dès que première fois, c'est vrai, je n'ai pas arrivé à danser toutes les danses bretonnes parce que ça change quand même un tout petit peu. Mais oui, ça me plaît l'ambiance, les gens qui viennent danser comme ça, je trouve ça génial, très bien.
Est-ce qu'on retrouve ce genre d'événement dans certains lieux? Les gens viennent, ils font de la musique, ils dansent les danses traditionnelles. Vous avez ça aussi en Lituanie?
Oui, on a même parfois dans les rues. Ça arrive que tu peux te promener dans les rues à Vilnius et tu trouves les danses et des chansons lituaniennes folkloriques chantées, dansées par les gens, même parfois habillées dans les habits lituaniens. Et parfois, c'est intéressant. Pendant les fêtes lituaniennes, on organise aussi des festivals. Même, ça m'arrivait aussi une fois passé Nouvel An, on a dansé toute la nuit les danses folkloriques lituaniennes. C'était des concerts, festivals en été aussi. On peut trouver partout les week-ends quand les Lituaniens se réunissent, ils dansent, ils jouent. C'est parfois très très amusant et on peut passer bien le temps là-bas. C'est même des jeunes qui bien se rencontrer là-bas. Par exemple, même ma cousine qui a rencontré son mari dans ses danses folkloriques lituaniennes, dans les soirées, les jeunes peuvent se trouver des amis. Donc c'est aussi partie de culture, hein, comme ça on rencontre des gens en même temps. Oui, c'est pas que dans le musée, non, pas du tout.
D'ailleurs, il y a des choses particulières aussi de la culture lituanienne parce que tu m'avais parlé de l'activité de porteur de livres qui n'existerait nulle part ailleurs au monde.
En fait, c'est surtout quand la Russie était occupée Lituanie et en ce moment, la langue lituanienne était interdite. Les livres ont dû être très cachés parce que si la police elle trouve les livres, les gens deviennent en prison, ils peuvent être morts pour avoir un livre lituanien. Et les enfants, ils n'ont pas eu le droit à apprendre le lituanien. Donc les gens, ils ont été obligés de chercher à imprimer les livres lituaniens en Allemagne, souvent en Prussie. Et donc de là, ils avaient des petites imprimeries. Ils imprimaient en cachette. Ils portaient des livres par les forêts, dans les sacs. Et il risquait même sa vie parce que si quelqu'un les a retrouvés, ça aurait été presque peine à mort, souvent. Et donc, oui, les gens risquaient d'amener les livres lituaniens pour sauver la langue lituanienne. Donc maintenant, parfois, on est fiers de dire on parle le lituanien parce qu'il était sauvé grâce à ces gens-là. C'était 19e siècle.
La culture lituanienne se retrouve au travers de sa langue, le lituanien. Même à Vilnius, on peut trouver des librairies, cafétérias, on peut faire de la musique.
Oui, on peut trouver des cafétéries où il y a le piano, par exemple, ou des guitares, on peut jouer, on fait des concerts dedans. Souvent, même, c'est très à la mode de donner des concerts dans les bars. Après, en France aussi, on peut trouver ça. À Rennes, surtout, aussi, il y a cette culture des concerts au bar, dans les cafétéries. Chez nous aussi, et ce qui est très, très à la mode, c'est la musique de la poésie chantée. On joue de la guitare et en même temps, on improvise la poésie. On lit la poésie chantée. Ça commence toujours quand le soleil qui se lève et les deux frères qui décident de prendre ses chevaux et aller voir leur fille. Donc ils s'habillent, ils préparent bien leur cheval, qu'il soit très beau. Comme maintenant les jeunes garçons préparent leur voiture. Donc là à l'époque, les Lituaniens préparaient bien leur chevaux.
Quelles sont les choses que tu ramènerais en Lituanie de la France?
Oui, la nourriture. Je pense que c'est ça que j'aime le plus, les fromages, les baguettes. Et quoi d'autre? La culture aussi, la France, elle a la culture très très riche de littérature, de musique, de tout. C'est quand même un pays qui a des traditions très très riches.
Mais c'est finalement le cas pour la Lituanie aussi, même si avec l'exemple de la littérature, au niveau des traces en tout cas qu'on peut encore avoir, c'est plutôt arrivé pendant le 18e ou le 19e siècle même. Ça a commencé à cette époque-là. Mais finalement, toi tu rentres chez toi souvent?
Oui, je rentre quand même assez souvent. Là, depuis l'année dernière, je rentre presque tous les 2-3 mois. Comme je peux trouver des billets pas trop chers. Et donc, c'est la possibilité de souvent voir ma famille. Et comme ça, je n'ai pas autant mal de pays. Après, je les vois aussi par Skype et on se parle assez souvent par Internet.
Mais par billet pas trop cher, ça éveille ma curiosité. Là, ça veut dire que concrètement, si on veut faire l'aller-retour, ça fait combien à peu près?
On peut trouver des billets pour aller-retour 60 euros, 50 euros. Si ça dépasse 60 euros, déjà, je trouve que c'est assez cher. On peut trouver moins cher.
On reproche assez souvent aux Français de faire souvent grève, d'être souvent dans la rue. En Lituanie, en fonction des générations, cette approche-là de l'insurrection, elle est différente en fait, en fonction des générations, n'est-ce pas?
Oui, je trouve que génération de mes parents, ils ne feraient jamais la grève. J'ai jamais vu mes parents faire la grève et je pense que c'est aussi l'influence de l'Union soviétique où c'était interdit de faire la grève. Et donc les jeunes maintenant de Lituanie indépendante, ils ont un peu d'autre l'expérience et nous on commence à faire des associations et participer plus dans la vie politique que nos parents qui vécu cette expérience où tout était interdit, sortir dans la rue et dire ton opinion, c'était interdit, tu peux aller dans la prison, maison des fous, si tu dis ton opinion, la vraie que tu penses sur le gouvernement. Non, il faut dire que l'Union soviétique était bien, c'était très très bien et même très bien gouverné, l'économie elle a toujours monté, même que les gens ils n'avaient pas quoi manger. Donc, c'était pas toujours vrai ce qu'on a montré à la télé et les gens pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils, en fait, la vérité, la réalité.
Quand l'URSS est complètement tombée en ruine, en Allemagne de l'Est, il y a des gens qui ont dit après que finalement, après cette expérience-là et après avoir expérimenté le capitalisme, bah, ils étaient quand même mieux à l'ère de l'URSS. Alors, est-ce que c'est le genre d'opinion qu'on pourrait retrouver chez vous en Lituanie?
Oui, on pourrait retrouver cette opinion-là. C'est peut-être même ma grand-mère qui disait « Oh, mais en fait, c'était pas trop mal à l'Union soviétique. Tout le monde avait du travail. Il fallait pas chercher. Les appartements, on avait gratuitement. La nourriture, on trouvait quand même. Et donc, on vécu pas si mal que ça. » D'autre côté, si tu veux voir tout ça, tu dois dire oui à tout ce que le gouvernement te dise. Si tu dis oui, tu as tout, oui, tu as du travail. Après, le grand problème, c'était l'alcoolisme. Beaucoup de gens commençaient à boire beaucoup d'alcool et c'était un des plus graves problèmes parce que en fait, ça ne changeait pas beaucoup. Tu peux aller au travail, tu ne peux rien faire quand même. Tu as la même quantité de monnaie, c'est égalitaire partout, donc tu ne peux pas monter plus haut que les autres. Il n'y avait pas beaucoup de motivation de faire quelque chose quand même, ça reste pareil, ça ne change rien. C'est le gouvernement qui te dise ce que tu dois faire, où tu dois aller, même dans quelle ville tu dois habiter. Donc, elle te dit tout ce que tu dois faire.
Et finalement, toi, quand tu envisages ton avenir, si c'est possible d'envisager ton avenir, tu te verrais plutôt habiter où?
Je pense que je vais quand même rester en France, probablement, même. Peut-être que je voudrais plus rester dans mon pays natal et j'aime beaucoup la Lituanie et je voudrais bien vivre en Lituanie. Mais comme je suis fiancée avec un Français, donc probablement on va rester vivre en France comme il a son travail ici. Et c'est vrai, pour moi c'est plus facile, je parle déjà la langue, je suis déjà installée ici. C'est un petit peu plus facile pour moi que pour lui venir en Lituanie. C'est quand même une autre langue, il faudrait tout apprendre et je pense... Oui, on a plus de facilité à rester ici.
C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Lisa et Johanna. Merci aussi à Claude pour son soutien à la réalisation. Et bien sûr à DJ Bril du groupe de Fesnos Plantec pour la musique de l'émission. Si vous souhaitez participer à Courant d'air ou tout simplement communiquer avec nous, vous pouvez nous écrire sur courantdairrcr@gmail.com. Courant, c'est au pluriel. Comme Camille, qui fait partie de l'équipe de Courant d'air, est en ce moment à Berlin, je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'on va la retrouver là-bas très bientôt. On finit cette semaine avec une note un peu sombre, une mémoire lituanienne du trauma de la guerre qui a donné une chanson extrêmement reprise, Raudoni Vakarei. Bonne semaine.
Linkims garos dienos, iki ir ačiū už šį nuostabų pokalbį.
Aš sningu tau ant pečių, aš atgulsiu, tu pareisi, bus raudoni vakarai, priešas trauksis, viskas keisis, mano Lietuva bedalė. Trečią kartą krito bitės iš delnų, gaudė verkė miesto varpas, dingo broliai tarp miškų, visą naktį skundis liepoms, aimanuojantys beržai, kraujo raudonių užlieti mūsų pustuščiai namai, man atgulus, nesugrįžti. Kur raudoni vakarai, tuščio kelio, tuščias kryžius, mano Lietuva bedalė. Arbiai. tout va badalaire.